Selon une récente étude épidémiologique conduite en France, la dépression est une maladie qui gagne du terrain. Elle toucherait jusqu'à une personne sur dix au cours de sa vie et est de plus en plus liée à des facteurs environnementaux, notamment à la détérioration de la qualité nutritionnelle ou à des facteurs d'inflammation à bas bruit. Or, de plus en plus de recherches pointent l'influence que pourrait avoir sur notre microbiote intestinal, sur notre santé mentale via le nerf vague. Mais est-ce le microbiote qui cause des dérèglements de l'humeur ou les états dépressifs qui dérèglent le microbiote? Sera-t-il possible un jour de traiter la dépression par voie entérique? Maux de ventre et vague à l'âme, c'est le programme un peu mélancolique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour aborder ces questions complexes de lien entre les troubles de l'humeur et ceux de la digestion, pour le dire vite, puisque c'est évidemment un peu plus compliqué que ça, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Guillaume Font. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, médecin en santé publique à l'hôpital de la Conception à Marseille, enseignant-chercheur à la faculté de la Timone. Et bonjour Joël Doré.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche INRA et directeur scientifique de l'unité Métagénopolis. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour en complément de votre écoute, qu'elle soit en direct sur le net ou en podcast, via notre fil Twitter @laméthodefc, où on va publier comme chaque jour un certain nombre de liens vers des études, vers des graphiques qui devraient vous permettre de comprendre ou de visualiser parfois un peu mieux les mécaniques qui seront décrites. Mais pour commencer, le diagnostic de la dépression a largement évolué au cours du temps et pour cause. Troubles de l'humeur, maladies chroniques, de composantes physiologiques ou psychologiques. Écoutez la définition qu'en donnait le professeur Pichot, c'était dans Interactualité. Nous sommes le 30 juin 1960.
Qu'est-ce qu'on appelle une dépression d'abord, monsieur le professeur?
Bien, la dépression est un ensemble de maladies qui ont en commun un certain nombre de signes qui sont essentiellement la tristesse, une tristesse très prononcée, un ralentissement général et également une certaine inquiétude, une angoisse. Ceci avec, dans les formes graves, des manifestations plus sérieuses qui sont par exemple les sentiments de culpabilité et même dans les formes très sérieuses, les idées de suicide et même le suicide.
Alors c'est une maladie?
Non, c'est en réalité un ensemble de maladies et très schématiquement on peut dire qu'il y a deux grandes variétés de dépression. Il y a d'une part celles qui sont causées par ce qu'on peut appeler les ennuis et qui ne sont en somme que la forme grave de la tristesse que l'on éprouve quand on a des ennuis. Et on appelle habituellement cette dépression les dépressions réactionnelles. Et à côté d'elle, il y a une forme plus grave et qui est constituée par des troubles qui apparaissent sans cause psychologique apparente et qui constituent, semble-t-il, une maladie autonome. Mais encore une fois, les deux formes ont en commun des symptômes très voisins.
Voilà l'état de la description de la dépression par un professeur en psychiatrie dans Interactualité en 1970. Qu'est-ce que ça vous évoque, Guillaume Font?
Alors c'est vraiment émouvant d'entendre ce voyage dans le temps de ce professeur qui nous rappelait qu'à l'époque, on faisait vraiment cette distinction entre endogène et exogène et qu'on ne la fait plus aujourd'hui parce que maintenant on est revenu dans une dimension moniste. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de différence entre l'esprit et le corps. Et donc, quand une personne fait une dépression, c'est multifactoriel. Il y a à la fois des facteurs de ce qui lui arrive dans la vie, donc des facteurs de stress qui peuvent déclencher l'épisode, un licenciement, un divorce, par exemple, etc. Et donc, tout le monde peut faire cette expérience-là dans la vie. Donc, il y a ce qu'on appelle une réaction dépressive, mais on a une résilience, on rebondit. Bon, ça peut être plus ou moins dur selon les personnalités et les histoires. Mais on s'en sort, et sans psychiatre et sans médicaments. Et puis, il y a les personnes qui vont s'effondrer, et là, va y avoir un cercle vicieux. Et donc là, ce qu'on identifie, c'est les facteurs de risque de ça. Et il y a des facteurs de risque à la fois psychologiques, mais aussi biologiques. Et c'est là-dessus qu'on va jouer.
Votre réaction à cet archive, Joël Doré?
Alors, je suis pas clinicien, donc je suis vraiment le microbiologiste de la bande ici. Et c'est intéressant pour moi de voir que on dissociait vraiment beaucoup à l'époque la partie neuropsychiatrie, du domaine de la psychiatrie et donc de l'école, j'ai envie de dire, de la psychiatrie, d'aspects de biologie. Et aujourd'hui, on est en train de beaucoup plus marier les deux et rapprocher finalement des aspects de la biologie, du corps en fait, hein, de l'homme, de la partie y compris microbienne de l'homme qui moi est mon objet de recherche, et la partie cerveau.
Justement, à ce propos, Guillaume Funk, quel est le diagnostic différentiel que l'on pose aujourd'hui sur la dépression? On parle de maladie chronique, on parle de troubles physiopathologiques. Comment est-ce qu'on peut la définir? Comment est-ce qu'on peut la décrire?
Alors aujourd'hui, on parle de la dépression majeure comme le trouble psychiatrique le plus fréquent. Il y a des formes qu'on appelle des épisodes dépressifs. Donc 20% des Français vont faire au cours de leur vie un épisode de dépression majeure qui va durer plus de 2 semaines, ne pas passer. Et donc ensuite, selon qu'il est traité ou pas, va durer quelques semaines à quelques mois, voire quelques années si vraiment la situation s'aggrave. Et puis cet épisode dépressif majeur isolé peut conduire à une forme chronique de dépression qu'on va appeler le trouble dépressif récurrent ou trouble unipolaire. Et donc là, c'est des personnes qui vont être exposées à faire des épisodes à répétition, des rechutes.
On va évoquer, hein, évidemment, puisque c'est le thème de cette émission, le lien entre ces troubles dépressifs et les dysfonctions du microbiote intestinal notamment. Il y a d'autres pistes de réflexion et de recherche que nous avons abordées d'ailleurs dans cette émission récemment, notamment autour de la piste inflammatoire ou de la piste hormonale. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot, parce que ça va éclairer notre débat tout à l'heure.
Oui, le microbiote fait partie du champ plus vaste de la question de l'immunopsychiatrie, c'est-à-dire les liens entre les maladies immuno-inflammatoires et les maladies psychiatriques, parce que le microbiote influence beaucoup notre système immunologique. Et donc ce champ en fait est en plein essor depuis une vingtaine d'années, parce qu'on a fait des observations cliniques. Ça a commencé en fait avec l'interféron, qui était un traitement pour l'hépatite dans les années 90, où la moitié des patients déclenchaient des dépressions majeures avec un traitement qui modulait l'inflammation. Donc ça a été la première preuve expérimentale chez l'être humain que moduler l'inflammation pouvait déclencher un trouble psychiatrique.
Ça, c'est pour la partie inflammation ou inflammation à bas bruit. Oui. On y reviendra d'ailleurs peut-être. Il y a aussi des pistes hormonales, des facteurs. On entend bien que la dépression est multifactorielle, qu'il pourrait y avoir un certain nombre de facteurs hormonaux qui viennent se greffer sur d'autres facteurs qui enclenchent la dépression.
Tout à fait. C'est ce qui expliquerait qu'il y a 3 fois plus de dépression chez les femmes que chez les hommes, par exemple. Donc, on pense effectivement qu'il y a des facteurs de prédisposition, à l'inverse que la testostérone pourrait être protectrice de la dépression.
Et le pourcentage à peu près, c'est 7% chez les femmes, 4% chez les hommes à peu près.
Alors ça dépend si on parle de la dépression à un instant T ou de la dépression au cours de la vie, effectivement. Alors donc justement, l'étude que vous avez citée en introduction, donc on a conduite à l'hôpital de Marseille en santé publique, on a regardé justement les chiffres de la dépression en France, parce qu'on n'avait pas d'études récentes épidémiologiques. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que quand on compare les études des années 2000 et des années 2010, on voit une progression qui va en moyenne de 8% à 10%. Ça veut dire qu'on a gagné 2 points de dépression dans la population générale, effectivement, avec des variations selon le sexe biologique, selon les âges aussi, parce qu'il y a plus de dépression chez les sujets âgés, par exemple, etc., ou des dépressions qui sont méconnues, qui commencent à être de mieux en mieux diagnostiquées. Donc il y a tout ça à prendre en compte.
Cette augmentation du nombre de cas de dépression répertoriés peut être aussi liée, on le dit jamais suffisamment dans les cas d'études épidémiologiques, à un meilleur diagnostic, et pas uniquement à une augmentation de la partie de pourcentage de dépression de la population.
Alors il y a effectivement un meilleur diagnostic, par contre je pense que ça ne suffit pas à expliquer une augmentation aussi importante dans les chiffres.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
À 16h10, nous parlons donc des liens que l'on peut établir, et vous allez voir que ce sont des liens complexes à établir entre dépression, troubles dépressifs et troubles de notre microbiote intestinal. Alors je me retourne vers vous, Joël Doré, peut-être pour rappeler, et pour commencer par rappeler de quoi on parle quand on parle de microbiote intestinal. On en a beaucoup parlé dans cette émission, mais histoire de se remettre un peu les idées au clair et de refaire un petit tour du propriétaire.
Le microbiote, en fait, c'est l'ensemble des micro-organismes avec lesquels on est en interaction permanente. Il se construit à partir du moment même de la naissance. En fait, on vient de l'environnement de l'utérus où on est dans un environnement stérile et on est exposé aux micro-organismes de l'environnement dès la naissance et on va devenir microbien. Et le paramètre important, c'est qu'on est humain, mais on est aussi microbien. On est chacun de nous à peu près 100 000 milliards de bactéries à partir de l'âge de 3 ans et en interaction permanente avec nos systèmes, notre physiologie. Notamment, on parlait de l'immunité. Bah, la connivence, une des connivences principales qui se met en place après la naissance, c'est en même temps que se développe le système immunitaire, se développe le microbiote, et les deux interagissent en permanence.
On a tendance à dire que, pour donner un ordre de grandeur, qu'il y a 10 fois plus de bactéries dans notre organisme que de cellules.
Oui, on a des collègues israéliens qui ont refait les calculs il n'y a pas très longtemps et qui nous ont dit oui, c'est peut-être 50-50.
En fait, c'est pas très bien encore, hein. C'est difficile évidemment.
On n'a pas d'exactitude parce qu'on calcule des masses de cellules qui sont énormes. 100 000 milliards, c'est quand même pas rien. Et donc on fait forcément des estimations approximatives. Cela dit, l'idée qu'on est au moins à moitié microbien est en soi intéressante, dans la mesure où on a construit une vision des microbes comme quelque chose de plutôt négatif ou dangereux. Et en fait, là, on est forcé de réaliser qu'on interagit en permanence avec une foultitude de microbes qui nous envoient des signaux en permanence, qui reçoivent aussi des signaux. Nous, on leur offre le JT le couvert et en fait, ils nous offrent en retour énormément de bénéfices.
Ce sont des bactéries qu'on appelle commensales, donc.
Bactéries commensales, il y a aussi des champignons, des protozoaires, il y a des virus un petit peu aussi, et beaucoup de phages qui sont les virus des bactéries. Donc tout ça est un complexe microbien assez diversifié.
Et alors parlez-nous un peu de ce microbiote intestinal. C'est vrai que c'est un champ de recherche très jeune qui suscite beaucoup d'engouement et d'enthousiasme. Cette émission à 3 ans, on en a parlé déjà un grand nombre de fois et on parle d'un continent microbien sur lequel on viendrait de poser le pied et qu'il resterait encore à découvrir et à en comprendre les fonctionnements. On va parler essentiellement au cours de cette heure du microbiote intestinal. Racontez-moi un peu comment ça se passe, comment cette population microbienne interagit avec nos cellules et in fine également avec notre système nerveux. Joël Doré.
Alors en fait, c'est gentil de dire que c'est un objet de recherche jeune parce que ça fait 35 ans que je travaille dessus, donc du coup pas si jeune que ça. Mais par contre, effectivement, on a une prise de conscience qui est vraiment importante aujourd'hui. Mmh. Les fonctions majeures que va exercer le microbiote, c'est finalement une fonction qui va conditionner le développement des tissus humains. Donc rien que le développement de la paroi intestinale, la mise en place de la production de mucus en permanence, qui est un mécanisme protecteur, tout ça est conditionné par des interactions avec les microbes qu'on héberge. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la partie importante en nombre et en diversité, c'est d'abord et avant tout les parties un peu lointaines de l'intestin, quoi. C'est le gros intestin principalement, où là on a des quantités vertigineuses par gramme de contenu intestinal qui vont donc interagir avec la mise en place des tissus, leur développement, avec le système immunitaire, on l'a évoqué, mais c'est vraiment quelque chose de majeur. Et on pense microbe pathogène, donc on pense inflammation. Ben non, le microbe, le symbionte en fait, hein, le microbe autochtone, il va envoyer des signaux qui sont plutôt apaisants vis-à-vis du système immunitaire, qui a appris après la naissance à le reconnaître comme faisant partie d'une normale, en fait, du soi. Les autres interactions peuvent opérer à l'intérieur même du microbiote intestinal, et c'est des interactions entre micro-organismes. Une des fonctions majeures du microbiote normal, c'est de nous protéger contre les bactéries de l'environnement. Donc quand on mange un morceau de fromage, on mange énormément de microbes, des champignons, des bactéries, des levures, et finalement ces champignons ne font que passer dans l'intestin. Et ils sont d'abord et avant tout empêchés de coloniser par les bactéries normales.
C'est ça, c'est un rôle très important. On va y revenir sur la perméabilité justement de la paroi intestinale.
Entre autres, la perméabilité et puis bon les mécanismes.
Et même la perméabilité du microbiote finalement.
Les mécanismes de protection du microbiote lui-même. Et puis l'autre interface majeure, c'est l'interface avec l'aliment. Et donc le fait que les micro-organismes sont adaptés à dégrader ce qui de notre alimentation arrive dans les parties lointaines de l'intestin, intactes finalement, et notamment les fibres alimentaires qui sont un moyen important de moduler notre microbiote intestinal.
Et alors, si je me retourne vers vous, Guillaume Font, on a beaucoup entendu dire aussi ces dernières années que nos intestins étaient notre deuxième cerveau. Nos intestins abritent je parle sous votre contrôle évidemment, 200 millions de neurones, à mettre en regard avec combien dans le cerveau, 8-10 milliards.
Oui, c'est ça. En fait, on dit que les neurones de l'intestin représenteraient le cerveau d'un petit animal, comme un chat, par exemple.
Et donc, comment justement ces neurones intestinaux s'organisent-ils vis-à-vis de l'intégration dans notre corps, des messages qu'il envoie à notre cerveau pour qu'on comprenne comment justement ces neurones vont pouvoir interagir avec ce fameux microbiote?
Alors jusqu'à présent, on pensait que la fonction de ce système nerveux, donc c'est en fait un maillage de neurones qui entoure l'intestin. Et donc jusque-là, on pensait que sa fonction première, c'était la motricité de l'intestin, c'est-à-dire faire progresser les aliments dans l'intestin du début jusqu'à la fin. Donc une fonction très importante, certes, mais on a découvert que ça ne s'arrêtait pas là. Alors, il y a beaucoup d'inconnus encore dans les liens intestin-cerveau sur le plan nerveux. Et donc, on a parlé du nerf vague, qui est le nerf le plus long de l'organisme. Et une des prises de conscience majeures, c'est que 80% des informations vont du bas vers le haut dans ce nerf. C'est-à-dire qu'en permanence, notre cerveau traite 80% des informations inconscientes qui viennent de l'intestin. Et alors qu'avant, on se focalisait beaucoup sur la partie descendante, donc du bas vers le haut. Et donc, on essaie de comprendre de mieux en mieux comment les bactéries font pour potentiellement stimuler ce nerf vague, parce qu'on sait qu'un des traitements de la dépression résistante, c'est-à-dire la dépression qui ne répond pas aux antidépresseurs, c'est la stimulation du nerf vague. Donc là, on a peut-être une hypothèse à creuser sur les bactéries de notre intestin.
Joël Doré, sur ces liens entre le nerf vague et le microbiote intestinal.
Alors, on a effectivement ce tapis de neurones qui sont sous-jacents, finalement, hein, après la paroi intestinale et la musculeuse qui est derrière. Mais c'est une des modalités par lesquelles le microbiote va être capable d'envoyer des signaux vers le système nerveux central, notamment. Mais on a aussi d'autres modalités, en fait. Hein. On a des cellules dans l'intestin qui sont des cellules spécialisées, endocrines, donc qui vont produire des petites molécules qui sont neuroactives.
Des hormones, en fait,
des petits peptides. On pensait que ça agissait en local sur notamment la motricité intestinale. On sait aujourd'hui que ça agit aussi au niveau du cerveau, par exemple sur la perception de satiété. Et elles sont sous l'influx de signaux qui viennent du microbiote. Et puis, il y a aussi le volet inflammation qu'on a évoqué, qui est finalement un moyen d'interaction majeur. Et on pense même aujourd'hui que quand il y a une inflammation au niveau intestinal, même une inflammation de bas grade, bah finalement, ça va inonder l'organisme de signaux d'inflammation et potentiellement agir sur la barrière qu'on appelle hématoencéphalique, donc la séparation entre le sang et les tissus nerveux du cerveau.
Peut-être qu'il faut en faire encore un petit détour avant de rentrer dans le vif du sujet ce qui a été pendant longtemps qui est toujours encore beaucoup le moyen principal de traiter la dépression, c'est-à-dire finalement l'origine monoamine, c'est-à-dire de dire aujourd'hui la dépression, il faut introduire un peu ce vocabulaire-là, c'est qu'on souffre d'un déficit de sérotonine. Mais la sérotonine, justement, d'où elle vient et pourquoi est-ce que ça n'est plus suffisant aujourd'hui pour expliquer ces mécanismes dépressifs, Guillaume Font ?
Donc effectivement, en fait, on a eu plusieurs théories pour expliquer la dépression. Et à l'époque des années 70, où le professeur décrivait la dépression endogène-exogène, la théorie qui était majoritaire, et encore la théorie qui est utilisée en pratique clinique courante, c'est la théorie donc monoaminergique. Alors les monoamines, en fait, c'est les neurotransmetteurs dans le cerveau, comme la sérotonine, la noradrénaline, la dopamine, qui seraient impliqués dans la dépression. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous les antidépresseurs refont monter la sérotonine. Donc en fait, c'est comme ça qu'on a eu la preuve indirecte, entre guillemets. On a eu difficilement la preuve, parce qu'on ne va pas aller découper des cerveaux humains de personnes vivantes pour aller démontrer qu'ils ont un déficit de sérotonine. Et puis, on ne peut pas aller non plus faire des biopsies, etc. Donc voilà, c'est très compliqué. Par contre, on a aussi des arguments chez l'animal. Mais bon, la dépression de la souris, c'est compliqué, parce que demander à une souris si elle a envie de se suicider, c'est quand même compliqué.
Et donc, elle peut avoir d'autres types de comportements.
Elle peut arrêter de se toiletter, moins interagir avec ses congénères, etc. Ou s'automutiler, parfois même.
Petite souris.
Oui, bon. Pauvre petite souris, elle nous aide beaucoup. Et il faudra qu'on pense à leur rendre hommage un jour quand même.
On a fait une émission ici sur les animaux de laboratoire pour expliquer à quel point il était difficile de s'en dispenser. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter. Je vous interromps.
Allez-y. Et donc, en fait, les antidépresseurs qu'on prescrit aujourd'hui, donc majoritairement à 95%, ont pour but de faire monter la sérotonine du cerveau ou la noradrénaline en fonction des antidépresseurs. Et donc ça améliore la moitié des patients à peu près, mais il y en a aussi la moitié qui répondent pas ou pas assez bien, qui font des effets secondaires majeurs. Alors l'autre argument qui est aussi frappant, c'est de constater que la sérotonine, on en a deux endroits dans le corps, c'est dans le cerveau et dans l'intestin. Donc en fait, il y a la théorie du transfert horizontal de gènes que moi je trouve passionnante. Alors je suis content d'être avec mon ami Joël Doré aujourd'hui pour en discuter. C'est cette fameuse théorie évolutive comme quoi, en fait, de la même façon que nos archéobactéries auraient été intégrées dans nos mitochondries en fait, pour synthétiser de l'ATP, que notre système nerveux central aurait pu à un moment donné se saisir du patrimoine génétique du microbiote pour son propre bénéfice de développement, ce qui expliquerait en fait qu'on trouverait de la synthèse de sérotonine et de peptides dans le microbiote, dans l'intestin et dans le cerveau. Et quand on regarde dans l'évolution, par exemple, on retrouve pas ces neurotransmetteurs chez les champignons, les végétaux, les premiers animaux. Donc c'est comme s'il y avait un saut dans l'évolution, en fait, qu'on les trouve chez les bactéries et chez nous, en fait, il y a quelques mammifères. Et donc, voilà, c'est une théorie que je trouve assez séduisante.
Joël Doré, un mot sur cette théorie d'idée que ces monoamines, finalement, nous viennent non pas de la production intérieure, mais d'une bactérie qu'on aurait adoptée, en fait, qu'on aurait intégrée à notre patrimoine.
Oui, on voit bien comment il y aurait effectivement un avantage évolutif qui aurait pu se construire sur cette base-là. Je pense que c'est assez compliqué malgré tout pour apporter des démonstrations scientifiques de théories comme celle-ci. Mais c'est tout à fait attrayant, effectivement.
Venons-en au sujet qui nous concerne, maintenant qu'on a bien défini à peu près tout le corpus nécessaire pour comprendre les tenants et les aboutissants de notre conversation. Les premiers travaux, je parle sous votre contrôle, Joël Doré, les premiers travaux qui font le lien, et on va voir que ces liens-là, on ne va pas parler du tout de lien de causalité, mais les premiers liens de corrélation entre dysfonction du microbiote et troubles de type dépressif, c'est sur un modèle murin, donc un modèle de souris, sont des travaux japonais de 2004.
Oui, en fait, auparavant, on avait déjà des travaux qui avaient été réalisés, mais de façon assez disparate et ponctuelle. Je crois dès le tournant du siècle dernier, en fait, on avait un collègue Phillips en Angleterre qui avait travaillé sur la relation entre des composants de l'alimentation et la dépression. Donc, c'était déjà un petit peu dans l'air pendant quelques temps à ce moment-là, et puis c'est resté longtemps dans l'oubli, en fait. Et là, on a pu, à partir de travaux récents, montrer que plusieurs choses, en fait. Si on compare des patients et des sujets sains, on a effectivement la mise en évidence d'altération du microbiote intestinal. Et puis, dans les travaux que vous évoquez, finalement, si on transfère le microbiote à des animaux qu'on peut élever en absence de micro-organismes, à ce moment-là, on va transférer le phénotype du contexte pathologique auquel on s'intéresse.
Explique-moi en quoi ils consistent ces premiers travaux de l'équipe de Nobuyuki Sudo à l'université de Kyushu au Japon sur des souris qui sont des souris axéniques. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait comme expérience?
Alors, en fait, on a la possibilité d'élever dans des bulles stériles des rongeurs qui sont dépourvus de microbes. Et donc, on leur donne bien sûr à manger de la nourriture stérile, ils boivent de l'eau stérile, ils ont un air qui est contrôlé sans microbes. Et donc, ils peuvent vivre normalement sans microbes. Et c'est un outil assez magique en termes de recherche, puisque ça permet effectivement d'apporter à ces animaux un microbiote voulu, contrôlé. Et en l'occurrence, donc, si on apporte le microbiote à ces animaux de patients, dépression, à ce moment-là, on va pouvoir, à partir de démarches de méthodes standardisées, essayer de voir si on transfère des comportements animaux qui sont apparentés à la pathologie à laquelle on s'intéresse.
Guillaume Font sur protocole.
Ça a été vraiment une révolution parce que ces souris en fait développent des troubles du comportement qui ressemblent à des troubles psychiatriques. Donc notamment, donc elles peuvent devenir plus exploratrices ou plus agressives. Enfin, certaines peuvent commencer à s'automutiler, etc. Donc on a eu comme ça des modèles animaux de troubles psychiatriques et puis de constater que quand on leur administre un probiotique, donc c'est-à-dire une souche de bactéries qui est jugée saine dans le tube digestif, les troubles du comportement disparaissent complètement, sauf si on attend trop longtemps, c'est-à-dire par exemple 9 semaines qui correspond à peu près, je crois, à la fin de l'adolescence de la souris, et dans quel cas les troubles sont irréversibles. Donc ça a été vraiment une prise de conscience que dans les modèles animaux, le microbiote jouait un rôle majeur dans le développement du système nerveux central et qu'il y avait potentiellement quelque chose à aller explorer chez l'être humain par la suite.
Joël Doré.
Par analogie, en fait, on avait travaillé sur des animaux qui ont des comportements assez différents naturellement. On a des souris très calmes et des souris plutôt stressées ou anxieuses. Et des collègues canadiens avaient pu montrer que si on dérive ces animaux en conditions sans germes, axéniques, on a dit, je crois, et qu'on transfère le microbiote de façon croisée, eh bien, on démontre que c'est le microbiote intestinal qui est un déterminant du comportement, anxieux ou calme. Et non seulement ça, mais en plus, on mesure dans le cerveau des concentrations de neuromédiateurs qui sont effectivement modulées par le microbiote lui-même.
Alors comme toujours, nous avons voulu aller jeter un œil en laboratoire pour comprendre justement le fonctionnement de ces types d'expériences. Bonjour Antoine Beauchamp.
Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Vous êtes rendu à l'INRA, Julien Josas, pour voir comment on travaille avec ces souris dépourvues de microbiote.
Oui, j'ai rencontré quelqu'un que vous connaissez bien, Joël Doré, puisqu'il s'agit de Sylvie Rabot, qui est chercheure à l'Institut Michaelis. Elle m'a reçu et on a parlé des travaux de son équipe consacrés à la compréhension compréhension du rôle du microbiote intestinal dans les pathologies psychiatriques, comme la dépression notamment. Pour mieux comprendre ce lien, donc Sylvie Rabot et son équipe mènent des recherches sur des souris axéniques, on en parlait à l'instant. L'enjeu, c'est d'observer, après un transfert de microbiote de patients dépressifs chez la souris, si le comportement de cette dernière change et, si c'est le cas, ce qui cause biologiquement ce changement. Sylvie Rabot nous dit donc tout sur ces protocoles expérimentaux, mais également sur une piste de recherche qui est de plus en plus explorée, l'usage de probiotiques comme complément possible au traitement de la dépression.
Les travaux du groupe dans lequel je travaille essayent plutôt d'étudier le rôle du microbiote intestinal comme facteur de vulnérabilité à la dépression ou d'autres maladies psychiatriques telles que l'anxiété également. Nous intéressons donc plutôt à la façon dont le microbiote envoie des informations au cerveau et comment ces informations peuvent être modifiées dans les cas de dysbiose du microbiote intestinal, c'est-à-dire d'un déséquilibre du microbiote intestinal. Donc comment à ce moment-là le dialogue entre le microbiote intestinal et le cerveau est perturbé. Le modèle de base, c'est la comparaison entre des rongeurs qui ont un microbiote intestinal naturel avec des rongeurs qui n'en ont pas. Nous avons ici une animalerie tout à fait particulière qui élève des animaux dépourvus de microbiote et qui nous permet donc de faire cette comparaison. À partir du moment où on observe une différence sur le cerveau, le comportement des animaux qui n'ont pas de microbiote intestinal, on peut à ce moment-là affirmer que le microbiote intestinal joue un rôle dans le développement et le fonctionnement cérébral.
Alors, est-ce qu'on pourrait aller voir justement un petit peu en laboratoire comment vous vous y prenez d'un point de vue expérimental et le protocole ? Donc, je vais vous suivre.
Alors, on se trouve ici dans l'animalerie axénique de l'Institut Michaelis, donc animalerie qui élève et permet de faire des travaux sur des rats et des souris qui sont dépourvus de microbiote. Pour être dépourvu de microbiote, c'est théoriquement pas très compliqué. Il suffit d'être dans une enceinte fermée dans laquelle tout est stérilisé. Donc on fait circuler de l'air stérile, on alimente les animaux avec un aliment stérile, on les abreuve avec de l'eau stérile et tout le matériel qu'on rentre est stérile. Donc du coup, ces animaux n'ont pas de microbiote. Leur tube digestif est libre de tout microbe et on va pouvoir les coloniser avec ce que l'on veut à peu près. Donc on va pouvoir les coloniser avec une bactérie isolée pour voir quel est l'effet de cette bactérie, alors notamment sur le cerveau. On a des travaux en cours sur ce sujet. On va pouvoir les coloniser également avec un microbiote venant de patients dépressifs ou anxieux et comparer ces animaux-là avec ceux qui ont été colonisés avec un microbiote de personnes saines. Alors l'inoculation, ça se fait de manière très simple, c'est assez trivial. Donc on récupère un prélèvement fécal d'un donneur et puis on va le diluer suffisamment pour qu'il puisse passer dans une petite sonde en plastique souple. On va donc pomper cette suspension fécale avec une seringue, brancher la petite sonde en plastique souple sur la seringue, et puis on va gaver la souris avec cette petite sonde. Donc le microbiote va arriver dans la bouche, dans l'œsophage, dans l'estomac, et puis il va s'installer dans l'intestin. C'est comme ça qu'on va voir si le microbiote de patient dépressif permet de développer des traits de dépression ou d'anxiété chez l'animal qui reçoit ce microbiote. Et puis ce qu'on fait également, on commence à étudier l'effet de probiotiques sur le comportement. Donc en induisant des modifications du microbiote chez l'animal avec un stress, bien, on réalise ce genre de modifications, donc soit par ce type de stress, soit en exposant des animaux adultes à ce qu'on appelle un stress chronique imprévisible, qui reproduit un petit peu une situation qu'on peut trouver chez l'homme, c'est-à-dire des personnes qui vont être exposées à des stress pendant des semaines, des mois, qu'elles ne peuvent pas prévoir, donc ça finit par déclencher un comportement de type anxieux ou dépressif. Donc on reproduit ce type de phénomène chez l'animal, et puis on va donc étudier les modifications de leur comportement et de leur cerveau, et puis on va les traiter avec des souches probiotiques, et voir si on arrive à atténuer donc le phénotype anxieux ou dépressif avec ces traitements. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, le nombre d'études dont je vous parle, c'est inférieur à 10. Hein. On en est vraiment encore au début. Donc c'est l'accumulation de données sur différents modèles, par différents groupes, dans différentes conditions, si on arrive à des résultats convergents qui permettront de considérer que cette relation entre le microbiote et la dépression est solide ou pas. Donc voilà.
On a parlé des tests de comportement chez la souris. Une fois que ces tests de comportement ont été réalisés, quel travail de biologie moléculaire vous allez effectuer pour comprendre et rentrer dans le cœur de cette compréhension du lien entre microbiote et dépression ?
En dehors des tests comportementaux, effectivement, l'intérêt du modèle animal, c'est aussi d'avoir accès à des tissus. On va donc prélever, à la fin d'expérience, lorsque les animaux sont euthanasiés, on va prélever les cerveaux. Et puis on va pouvoir faire un certain nombre de mesures au niveau cérébral, soit des mesures de concentration de neurotransmetteurs, tels que la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline. On va mesurer également l'expression de gènes qui vont coder soit pour des enzymes qui sont responsables de la synthèse de ces neuromédiateurs ou qui sont responsables également de la chaîne de synthèse de la corticostérone. Alors, corticostérone, bon, chez l'homme, l'hormone du stress, c'est le cortisol. Chez la souris, c'est la corticostérone. C'est sécrété par des petites glandes qui sont au-dessus des reins, qu'on appelle donc les surrénales. Mais le signal de départ de cette synthèse, il est envoyé par des structures du cerveau. Donc on va mesurer également au niveau cérébral comment ces molécules précurseurs de la chaîne vont activer la synthèse de corticostérone dans les surrénales. Et puis on va mesurer également l'expression de gènes qui codent pour des protéines qui jouent un rôle dans la genèse des neurones, la genèse des synapses. Donc en fait tout l'aspect de la neurogenèse, la synaptogenèse, donc de la plasticité du cerveau, du développement du cerveau, plus l'intestin, pour évaluer le degré d'inflammation de l'intestin et le degré de perméabilité de l'intestin.
Vous évoquiez aussi tout à l'heure des travaux en lien avec les probiotiques. Alors quel type de probiotiques et puis voilà, qu'est-ce que vous cherchez à établir ?
Alors pour l'instant, on travaille avec des souches de probiotiques de type bactéries lactiques, hein, qui sont des probiotiques déjà commercialisés qui existent sur le marché. Et on va traiter des animaux, alors soit avant une exposition à un stress, soit pendant l'exposition à un stress, de manière à voir si on va réussir à infléchir le comportement de type anxieux et dépressif grâce à ces probiotiques. Pour l'instant, le but, c'est de faire vraiment la preuve de concept que, en modifiant le microbiote avec des probiotiques, on arrive à infléchir le comportement des animaux. On y arrive, c'est-à-dire on atténue effectivement les comportements de type anxieux et dépressif. Pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour savoir comment ces probiotiques fonctionnent. Néanmoins, il y a déjà quelques preuves dans des modèles animaux, pas de notre groupe, mais réalisées par des collègues dans d'autres pays, où ils se sont rendus compte qu'en sectionnant le nerf vague, bon, c'est ce qu'on peut faire effectivement chez l'animal, eh bien, l'effet du probiotique que ce groupe avait testé était complètement aboli. Donc, il semblerait que l'action du probiotique passait par le nerf vague. Maintenant, on n'en sait pas plus et on ne sait absolument pas si le probiotique a agi par lui-même, s'il a agi en corrigeant le déséquilibre du microbiote, est-ce que ça correspond à des molécules particulières, etc. Là, c'est encore la boîte noire. Alors, en termes de mécanisme d'action, pour les relations entre le microbiote et le cerveau, on en est encore vraiment au stade des conjectures.
Voilà ce reportage du jour sur ces manipulations, sur ces souris axéniques qui injectent des microbiotes fonctionnels ou dysfonctionnels. Votre réaction l'un et l'autre, Joël Doré, à ce que vous venez d'entendre ?
Je vais complexifier un petit peu le paysage. En fait, on voit bien comment le microbiote interagit avec le cerveau, en l'occurrence, et à travers le nerf vague, comme vient de très bien l'expliquer Sylvie Rabault. Et en même temps, dans les contextes des grandes pathologies de société moderne, dans lesquelles on inclut aujourd'hui avec de plus en plus d'évidence les maladies neuropsychiatriques, on a cette observation que, à la fois, on documente un dérèglement du microbiote intestinal, mais aussi, de façon assez systématique, de la perméabilité intestinale ou de l'hyperperméabilité, de l'inflammation et avec la perméabilité et l'inflammation du stress oxydant. Et donc, la démarche ou le concept, la théorie que l'on a envie de mettre en avant quand on parle de probiotiques comme un moyen d'agir et de rechercher une clé d'action, un élément bioactif sur une des étapes finalement de ce dérèglement. Mais ce dérèglement-là peut s'auto-entretenir dans un cercle vicieux et donc on est aujourd'hui en train de faire ce constat que peut-être on a avec le microbiote, la perméabilité, l'inflammation et le stress oxydant, quatre leviers qu'on pourrait actionner en même temps avec différents types de bioactifs combinés en fait. Et donc là, l'espoir qu'on a dans l'avenir de la thérapeutique, dans les maladies chroniques en général, et probablement particulièrement dans le contexte des maladies neuropsychiatriques, c'est de développer des nouvelles démarches thérapeutiques qui mettent en avant cette réalisation et cette documentation scientifique de plus en plus pointue maintenant. Des différents leviers potentiellement à l'œuvre dans l'installation des dérèglements.
Guillaume Font.
Oui, alors ces différents leviers, on les retrouve dans les études chez l'être humain et c'est ça qui est absolument passionnant, c'est-à-dire qu'on a vraiment en parallèle une recherche fondamentale qui trouve des résultats spectaculaires chez l'animal et une recherche clinique qui trouve des résultats au niveau des populations cliniques mais sans savoir les expliquer et donc justement il y a une connexion qui est en train de se faire qui est extraordinaire. Chez l'homme, on sait que la dépression majeure donc peut répondre à des antidépresseurs mais qu'elle peut répondre aussi à des anti-inflammatoires, ça améliore la dépression, donc mécanisme inflammatoire, à des antioxydants. Donc il y a là par exemple la N-acétylcystéine qui est un antioxydant précurseur du glutathion dans le cerveau, qui a démontré de l'efficacité dans tout un tas de troubles psychiatriques qui vont de la dépression à la schizophrénie, même le skin picking qui c'est un trouble où en fait où les gens se triturent la peau du visage, etc. Donc et c'est sorti dans des méta-analyses, donc des compilations d'études de très bon niveau. On a le mécanisme donc du microbiote directement, donc le probiotique. Il y a une méta-analyse en 2016 qui a été publiée qui montre l'efficacité des probiotiques en adjonction au traitement usuel dans la dépression, avec une efficacité qui est légère à modérée. Donc légère à modérée parce que souvent ça on mélange des patients qui finalement sont de très bons candidats à des probiotiques parce qu'ils auraient des perturbations du microbiote, et d'autres qui en fait ont déjà un microbiote sain donc ils n'auraient pas à bénéficier. Mais actuellement on ne fait pas d'analyse de microbiote pour tout un tas de raisons, parce que ça coûte encore assez cher, qu'on le fait pas en pratique clinique, etc. Donc en fait, on mélange des gens qui répondent au traitement, puis d'autres pas du tout. Et donc effectivement, quand on regarde tous ces traitements adjuvants qui marchent dans la dépression, moi je rejoins complètement Joël Doré sur le fait qu'en fait, la voie de l'avenir, ce sera peut-être de combiner tout ça et en identifiant mieux les patients qui répondent.
Joël Doré.
Un point de précision, en fait, on parle de probiotiques, donc je suis sûr que
on va y revenir dans
vos
un
auditeurs
instant.
En ont beaucoup entendu parler déjà. Le point important, c'est le fait qu'un probiotique n'est que par l'identité de la souche dont on parle, et donc la souche, c'est au-delà de l'espèce, c'est le niveau le plus pointu de caractérisation, et donc une souche microbienne particulière, en l'occurrence un probiotique au niveau de la souche, va agir sur un élément assez fin, en fait, assez pointu, assez particulier du dérèglement. Et donc ça peut être, par exemple, bien documenté pour certains probiotiques, un effet sur la perméabilité intestinale.
On va revenir là-dessus, on va essayer de voir comment finalement cette translation du modèle animal au modèle humain est certes parfois assez éloquente, mais en même temps très compliquée à établir.
Takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe that you don't eat when you've lived too long. Oh no, 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 you're a rock and roll suicide. Shit breaks the snarling as you stumble across the road, but the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow, don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. Yourself, but you're too unfair. You've got your head all tangled up, but a fire can only make it there. Oh no, love, you're not alone. No matter what or who you've been, no matter when or where you've seen, overnight it'll lacerate your brain. I've had my share, I'll help you with the pain. You're not alone.
Non, vous n'êtes pas seul, vous écoutez France Culture, la méthode scientifique. C'était un peu difficile de couper David Bowie, donc j'ai trouvé cette parade un peu lamentable. Vous m'en excuserez. Rock'n'Roll Suicide, puisque nous parlons entre autres de troubles dépressifs et de leur lien avec le microbiote intestinal. Nous en parlons avec Guillaume Font, qui est psychiatre, médecin en santé publique à l'hôpital de la Conception à Marseille et enseignant-chercheur à la faculté de la Timone, et avec Joël Doré, qui est directeur de recherche INRA et directeur scientifique de l'unité Métagénopolis. Alors pour passer au modèle humain, on le disait tout à l'heure, Guillaume Font, il y a évidemment ces modèles animaux qui sont éloquent, évident. On voit des liens très forts. On voit qu'en agissant sur le microbiote, on agit immédiatement sur l'état d'humeur et l'état de tension ou de stress de ces animaux. Pourquoi est-ce qu'il est si difficile aujourd'hui de dupliquer ces expériences sur le modèle humain et pourquoi est-ce qu'il est si difficile de passer de corrélation que l'on arrive à établir à de la conséquentialité ou à de la causalité?
Alors déjà, c'est très difficile d'avoir un être humain stérile. C'est-à-dire que déjà, certes, on peut pas faire naître des bébés en conditions stériles et puis les maintenir pour les buts de la recherche en conditions stériles. Voilà, on voit assez nettement que ça poserait des problèmes pour des raisons éthiques. Hein. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de parents qui acceptent de prêter leur enfant.
On est d'accord.
Donc ça, c'est un premier problème. Ensuite, chez l'être humain, donc en fait, dans des modèles animaux, voilà, on peut isoler des facteurs, changer un seul facteur, faire deux groupes et regarder l'influence de ce facteur. Les êtres humains, ils sont traversés par des dizaines, des centaines de facteurs et on peut pas en modifier un seul en disant il y a que celui-là qu'on va faire varier, sauf si on est dans ce qu'on appelle des essais contrôlés randomisés. Donc par exemple avec un médicament, là on peut le faire, on peut dire on donne le médicament, on donne un placebo, c'est ok. Quand on est dans des facteurs épidémiologiques, là c'est plus compliqué. L'alimentation par exemple, c'est très compliqué parce que comment évaluer l'alimentation, sur quelle durée, il y a le biais de mémorisation, il y a plein de choses. Et puis après, à côté de ça, il y a la pollution, les perturbateurs endocriniens, l'activité physique, etc.
Les conditions de vie au sens
exactement. Si la personne vient de s'engueuler au téléphone avec sa petite amie, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent traverser des évaluations. Donc après, c'est pour ça qu'il nous faut des tailles d'échantillons quand même assez importantes et croiser plusieurs types d'études, c'est-à-dire des études de laboratoire avec des petits échantillons, donc avec des interventions assez précises, des études d'épidémiologie avec des grandes populations, des bases nationales, etc. Et après, c'est la convergence de tous ces arguments. Et puis aussi, on peut, là, dans le cadre du microbiote, nous, à Marseille, ce qu'on aimerait développer, c'est ce qu'on appelle la greffe de microbiote intestinal. Donc, en fait, qui consisterait, donc comme pour la souris, en fait, c'est-à-dire à remettre à zéro le microbiote par une purge, et puis ensuite à greffer un microbiote sain à la personne sous la forme de capsule, donc un microbiote qui aura été purifié, filtré, et regarder si ça améliore les troubles psychiatriques. Ça, c'est possible, et on espère avoir les financements pour le faire.
Mais alors, question sur cette expérience-là. Aujourd'hui, on l'a dit, hein, le microbiote, c'est... au moins autant de cellules que nous avons dans le corps. Aujourd'hui, faire une transplantation fécale, faire une greffe comme ça de microbiote intestinal, ça n'est pas prendre le risque d'appauvrir? Est-ce qu'on peut reconstituer un microbiote avec toutes les souches nécessaires pour recoloniser un microbiote humain ou est-ce que c'est encore compliqué?
Alors non, le microbiote va se recoloniser parce que justement le microbiote qui va être greffé va être plus sain que celui qui a été purgé. Donc justement, il va avoir plus de biodiversité et puis ensuite il va coloniser l'intestin comme notre intestin s'est colonisé dans les premières années de notre vie. Donc au contraire, là généralement il n'y a pas de problème parce que justement on a souvent soustrait une des causes. Alors par contre, j'insiste sur le fait que s'il y avait un facteur qui a conduit à la perturbation du microbiote, comme par exemple une mauvaise alimentation, si cette mauvaise alimentation perdure, bah, le nouveau microbiote va être exposé aussi à cette mauvaise alimentation et donc potentiellement pouvoir dégénérer.
Joël Doré, la question qui se pose aujourd'hui dans ces recherches entre les liens entre le microbiote et d'un microbiote dysfonctionnel et des troubles de l'humeur ou des troubles psychiatriques, c'est la question de l'œuf ou de la poule. Est-ce que c'est le trouble du microbiote qui conduit à des troubles de l'humeur ou est-ce que ce sont des troubles de l'humeur qui finissent par ressurgir et avoir un effet sur le microbiote?
Oui, c'est une complexité qu'on retrouve dans toutes les maladies chroniques, qu'on a vu augmenter, comme on l'a évoqué tout à l'heure pour la dépression, et qui est effectivement quasi insoluble, j'ai envie de dire. Alors, malgré tout, on a évoqué ces essais où on démontre que l'on est capable d'installer dans un animal sans germe une symbiose, d'une certaine façon, qui mime ou qui reproduit des éléments de la maladie. Et donc, c'est le plus proche que l'on est de la démonstration de causalité à ce stade, dans la mesure où on n'est pas dans les pathologies infectieuses où c'est un agent pathogène unique qui est responsable. Donc, on sort des grands principes de la pathogénie où on pourrait essayer de reproduire la maladie avec une bactérie unique, par exemple. Donc là, on arrive à reproduire un phénotype à partir d'un complexe microbien qui vient d'un patient. Et c'est le plus proche qu'on puisse faire aujourd'hui en termes de démonstration de la causalité, avec, au-delà de ça, une convergence d'évidence. On parlait de différents leviers sur lesquels on pourrait agir, en parlant des probiotiques tout à l'heure, et Guillaume évoque le transfert de microbiote fécal. Et là, on est finalement sur un schéma où on va vraiment pouvoir tenter de reconstruire complètement l'écosystème et donc de reconstruire complètement la symbiose et donc de remettre d'une certaine façon à zéro la relation globale entre le microbiote et l'individu. Et dans les cas où effectivement ça va être un élément causal, un élément d'entretien de la maladie, parce qu'il faut bien voir aussi que ça peut être le moteur d'un entretien de la durabilité dans une pathologie. À ce moment-là, on se donne effectivement les moyens de reconstruire une symbiose favorable, à la fois sur l'aspect perméabilité intestinale, immunité, stress oxydant qu'on a évoqué, et reconstruction de la diversité et de la richesse du microbiote qui souvent est un élément défaillant.
Pour reposer la question d'une autre façon, Guillaume Font, vous évoquiez à l'instant le fait qu'il peut y avoir des troubles du comportement alimentaire ou de la nature, des troubles du microbiote qui sont induits finalement par une mauvaise alimentation, par une alimentation, alors on en a déjà aussi beaucoup parlé ici, de produits ultra transformés qui sont des produits pauvres, etc. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a des troubles de l'humeur qui sont directement induits par de mauvais comportements alimentaires?
Alors, on n'a pas l'étude qui nous démontre, parce qu'en fait, comment il faudrait apporter la preuve? Il faudrait prendre un groupe de personnes dépressives et puis faire deux groupes avec un groupe à qui on laisse la mauvaise alimentation et l'autre à qui on met la bonne alimentation. Le problème, c'est que d'un point de vue éthique, on peut pas laisser des personnes sous une mauvaise alimentation si on pense que c'est quelque chose qui va entretenir leur mauvaise santé. Donc ça, déjà, cette partie-là, c'est pas possible. Par contre, il y a une méta-analyse qui vient d'être publiée en 2018 par une collègue épidémiologiste de Montpellier qui démontre clairement que le régime alimentaire sain améliore la dépression. Voilà. Donc, il y a eu le régime méditerranéen, un autre type d'évaluation qui s'appelle le healthy diet en anglais, donc l'alimentation saine.
Oui.
Voilà. Le régime santé, tout à fait. Donc là, c'est un système de points où on gagne des points si on a des bons comportements et on perd des points si on a des mauvais comportements. Et donc, cette méta-analyse, donc une compilation d'études, donc c'est un des plus hauts niveaux de preuves scientifiques, montre que le régime a une efficacité sur la dépression.
C'est-à-dire qu'il transforme l'état d'un patient qui est d'un état dépressif à un état amélioré.
C'est ça. Mmh. Il améliore les symptômes dépressifs, voire, dans certains cas, peut permettre à la personne de rentrer en rémission de la dépression.
Ce qui permet de contourner le problème de se dire, est-ce que ce n'est pas parce qu'on est dépressif qu'on fait moins attention à son alimentation et que du coup, on s'alimente moins bien et du coup, reprendre le problème dans le sens inverse.
C'est ça. Alors moi, d'une façon générale, effectivement, je suis d'accord avec Joël que c'est insoluble, mais par contre, ce que je constate aussi, c'est que quand on regarde l'évolution, donc l'épistémologie, l'évolution des découvertes en sciences, souvent, en fait, en tout cas en psychiatrie, c'est vraiment beaucoup ça. C'est d'abord, on dit, ça vient de l'esprit, tout ça, c'est le trouble psychiatrique et puis qui induit tout le reste. Et que, en fait, dans l'histoire des différents troubles, on se dit que finalement, on renverse le truc à l'envers et on se dit, en fait, ça marche mieux dans ce sens-là, en fait. Mmh. Et donc, notamment dans la dépression, c'est vraiment une pathologie psychiatrique où on a tout fait dire à la dépression en disant que, il y a aussi la schizophrénie où c'était ça, les liens avec la toxoplasmose, par exemple, où on disait, c'est parce que les personnes ont des schizophrénies qui se lavent pas les mains et qu'ils mangent de la viande moins cuite et donc ils se contaminent plus à toxoplasma. On a publié une méta-analyse en 2015 qui montre clairement que ça précède le déclenchement des troubles. Donc là, on a le sens de la causalité, il est assez nettement démontré. Donc dans la dépression, c'est vrai que moi, je vois assez peu d'explications crédibles pour me dire que l'état dépressif induirait une modification de comportement qui serait une conséquence et pas l'inverse, en fait. Ou en tout cas, qu'il y a vraiment une relation bilatérale d'auto-entretien, mais que c'est pas à sens unique de la dépression vers le comportement alimentaire, par exemple.
Joël Doré, que peut-on dire aujourd'hui de l'état de la littérature scientifique et médicale à ce propos? C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un microbiote qui dysfonctionne? Puisque finalement, si le microbiote, ce sont comme nos empreintes digitales, chaque microbiote est différent, le vôtre, le mien, ce qui constitue l'individualité, qu'est-ce qui nous montre que tel microbiote est moins fonctionnel par rapport à tel autre d'une personne, en sachant que les différences sont importantes, sont très importantes. Les deux microbiotes se ressemblent vraiment très très peu.
Oui, on a effectivement une variabilité inter-individuelle qui est énorme. Donc effectivement, on peut se demander légitimement, est-ce qu'on a des signaux qui nous rassure par rapport à la possibilité d'identifier un dérèglement. Et parmi les signaux assez systématiques qu'on a pu observer dans les maladies neuropsychiatriques, mais j'ai envie de dire encore une fois, dans les maladies, les grandes pathologies de société moderne, en fait les maladies chroniques en général, c'est une perte de diversité ou une perte de richesse. On le mesure avec nos outils à l'INRA qui sont des mesures de métagénomique, donc où on caractérise tous les gènes, et le premier résultat qu'on obtient, c'est la richesse en gènes. Cette richesse, elle est diminuée systématiquement dans les contextes de pathologies chroniques. Et puis, au-delà de ça, en termes de composition, on voit une diminution de bactéries qui sont normalement dominantes dominante chez l'individu en bonne santé, et c'est des groupes de bactéries qui, au niveau fonctionnel, vont par exemple contribuer à la production de petites molécules qui sont intéressantes au niveau de la protection immunitaire ou de la vie même des cellules de notre paroi intestinale. Le butyrate, par exemple, est une petite molécule active vraiment intéressante, et on voit très souvent dans les pathologies chroniques disparaître pratiquement ou sortir de la dominance ces bactéries capables de produire le butyrate.
J'ai aussi lu que la notion de perméabilité était très importante, c'est-à-dire qu'un microbiote plus dysfonctionnel est un microbiote plus perméable, c'est-à-dire qu'il laisse passer dans l'organisme plus de choses, d'autres molécules, d'autres micro-organismes qui normalement ne devraient pas y passer.
Alors souvent quand on parle de perméabilité, on parle en fait de perméabilité de la paroi intestinale elle-même. Donc en fait c'est notre paroi intestinale qui devient un peu passoire et qui va laisser passer énormément de molécules d'origine microbienne notamment. Et quand c'est le cas pour des molécules comme des molécules de paroi bactérienne ou des flagelles par exemple, qui sont les éléments de motricité des bactéries, ben ça c'est agressif vis-à-vis du système immunitaire, donc on va promouvoir immédiatement l'inflammation et déclencher le cercle vicieux dont on a déjà parlé.
Guillaume Font.
Oui, le butyrate, hein, c'est un énorme champ de recherche en pédopsychiatrie par exemple, chez les enfants qui déclenchent un autisme. On se pose énormément de questions autour du microbiote intestinal aussi, parce que donc on a des études qui nous montrent que les enfants qui souffrent d'autisme ont des microbiotes différents des enfants qui n'en ont pas, qu'on trouve des microbiotes perturbés chez les frères et sœurs d'enfants autistes aussi, donc qu'il y aurait peut-être un facteur d'exposition commun et que certains enfants pourraient déclencher l'autisme et d'autres pas, donc on essaie de comprendre les interactions avec la génétique aussi potentiellement autour de ça. Et une des hypothèses, donc, ce serait que ces acides gras à courte chaîne en fait auraient un rôle capital dans le développement du système nerveux central. Donc c'est vraiment des données qui génèrent beaucoup d'espoir, mais pour l'instant voilà, on est en train de conduire des études.
Autre question aujourd'hui, vous avez parlé donc de la greffe de microbiote intestinal qu'on appelle aussi transplantation fécale. Est-ce qu'il y a d'autres pistes thérapeutiques qui sont à l'essai, qui peuvent justement permettre de corriger d'un côté ou de l'autre aussi ce microbiote ou ce lien entre microbiote et troubles de l'humeur, Guillaume Font?
Alors, c'est vraiment pour moi les deux traitements qui ont le meilleur rapport efficacité risque. Ce serait quand même d'un côté bon les probiotiques hein, qui sont déjà étudiés.
On va en dire un mot dans un instant.
Et puis d'autre part la transplantation de microbiote intestinal. J'évite de dire transplantation fécale parce que le mot fécal ça peut être un peu
rédhibitoire. C'est pas très engageant.
Raisons. Je tiens à rappeler que généralement c'est filtré, donc les matières fécales bon il y en a plus beaucoup à la fin.
Disons transplantation de microbiote.
Voilà c'est voilà. Ça. Je précise aussi qu'on est en train de développer une forme sous capsule, c'est-à-dire qu'avant ça se faisait par sonde en fait, qu'on faisait passer par le nez, puis maintenant il y a une forme sous capsule qu'on est en train de développer à Marseille notamment. Et puis après, donc il y a d'autres traitements qui peuvent influencer le microbiote, comme par exemple des antibiotiques. La minocycline est très étudiée en psychiatrie. Il y a des essais qui sont en cours, dont un à Créteil pour l'autisme.
C'est-à-dire pour venir à bout d'une souche bactérienne qui serait une souche agressive ou toxique.
L'aminocycline, en fait, on l'utilise plutôt pour viser le cerveau, parce qu'en fait, c'est un antibiotique à pénétrance intracérébrale, ce qui est rare, et en fait, qui est anti-inflammatoire aussi, mais qui a une influence donc potentiellement aussi sur les bactéries. Donc il y a tout ça en jeu, et surtout, ça a démontré l'efficacité dans des troubles psychiatriques majeurs comme la dépression, la schizophrénie. Donc c'est à l'étude. Par contre, on est très 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 précautionneux, parce que un antibiotique, c'est quand même un coup de tonnerre dans le microbiote. On sait pas trop ce qu'on va faire et quelles vont être les conséquences. On a assez peu de données. Donc voilà,
on en parlait ici même mercredi dernier. On va vous remettre effectivement sur l'usage des antibiotiques et sur la recherche sur l'ère post-antibiotique. C'était le sujet de l'émission de mercredi dernier, dont on va vous remettre le lien sur le fil Twitter. Joël Doré, sur les pistes thérapeutiques, en quelques mots.
Honnêtement, je mets beaucoup, beaucoup d'espoir dans la démarche de transplantation de microbiote fécal ou de microbiothérapie, comme on dit aussi. Alors j'accompagne à titre personnel une petite société lyonnaise qui s'appelle Mad Pharma et qui a mis en œuvre les process nécessaires pour finalement préparer un médicament à base de contenu intestinal humain qui garantisse l'intégrité du matériel biologique, ce qui est pas très évident parce que dans l'intestin on est en condition par exemple on appelle anaérobie, absence totale d'oxygène, avec des micro-organismes qui depuis l'évolution ont perdu l'aptitude à gérer les radicaux libres et donc le stress oxydant, et donc il faut des précautions vraiment toutes particulières pour arriver à maintenir cette diversité, cette richesse, et notamment les bactéries productrices de butyrate dont on a parlé, qui sont importantes dans ces contextes là et donc Mad Pharma a les outils pour aller vers les les contextes assez divers de pathologies, y compris des pathologies neuropsychiatriques.
Il faut préciser que tout ce dont vous parlez, tout ce que vous évoquez pour le moment est en essai clinique, donc ce sont pour le moment des essais, que ce ne sont pas des thérapies qui sont disponibles dans le commerce, que bon, pour
c'est
le moment on
important.
Attend. Voilà, non mais il faut toujours le dire, et que voilà, même s'il y a des essais et des cohortes qui sont aujourd'hui à l'étude, pour le moment on n'en est encore qu'à la phase de recherche. Peut-être un mot pour conclure, donc vous l'évoquiez tout à l'heure, Guillaume Font, on parle beaucoup des probiotiques, il y a tout évidemment, comme toujours quand un secteur de la recherche s'ouvre et est très prometteur, plein de gens s'engouffrent là-dedans. Aujourd'hui, ça veut dire que, à titre individuel, c'est important de consommer ce type de produit, de se retourner vers ces yaourts magiques qui restaureraient toute ma flore intestinale en un claquement de doigts. Ça a du sens ou est-ce que c'est un peu tombé dans le panneau de la commercialisation de produits qui ne sont pas si formidables que ça?
Alors, ce qu'on peut déjà rappeler, c'est que si on n'a pas de problème de santé, il n'y a pas besoin de prendre autre chose qu'une bonne alimentation, une bonne activité physique. Ça, j'insiste vraiment là-dessus. C'est que pour moi, il n'y a rien qui peut remplacer une bonne alimentation, une bonne activité physique. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de thérapie, etc. Et ça, je le dis parce qu'en pratique, c'est très difficile de changer d'alimentation et de commencer à changer son activité physique quand on le fait pas. Donc ça, c'est un des grands enjeux de la prise en charge psychiatrique qui se faisait pas avant. Avant, on était vraiment dans le domaine de l'esprit, des émotions, etc. On ne parlait pas du mode de vie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Pour les probiotiques, donc on a une méta-analyse qui démontre que la prise de probiotiques améliore les symptômes dépressifs avec une efficacité légère à modérée. Et on pense en fait que chez certaines personnes, elle est plus importante, et puis chez d'autres personnes, pas du tout, parce qu'en fait, le problème ne vient pas du microbiote, donc ça c'est sûr. Après, la question qu'on me pose, c'est quel probiotique ? On n'a aucune réponse à fournir là-dessus, parce qu'en fait, il y a eu plein de souches qui ont été étudiées et qu'on n'arrive pas à isoler la souche qui va améliorer la dépression plus qu'une autre. Et ensuite, donc de dire, ben voilà, il faut savoir s'écouter. Donc il y a des personnes qui ont des facteurs de risque, par exemple, d'avoir une biodiversité du microbiote altéré. Ou donc ça peut être les personnes âgées, ça peut être les personnes qui ont des cures d'antibiotiques à répétition pour des problèmes de sinusite, par exemple, des choses comme ça. Et là, ça pourrait être intéressant.
Des infections urinaires aussi, par
voilà,
exemple.
Exactement. Mmh. Et donc là, ça pourrait être intéressant si ces personnes-là ont à la fois ces facteurs d'exposition et des troubles dépressifs récurrents, par exemple, et que les antidépresseurs ne sont pas assez efficaces ou ont des effets secondaires, d'associer les deux. Donc ça, j'invite mes collègues psychiatres à le proposer, parce qu'il y a aussi des compléments alimentaires qui ont démontré de l'efficacité, comme les oméga-3 qui ont des propriétés anti-inflammatoires, la vitamine D qui module le système immunitaire, qui ont tous démontré de l'efficacité dans la dépression. Donc il y a plein d'outils qu'on peut utiliser qui sont sous-utilisés actuellement.
Joël Doré, pour conclure, j'ai lu qu'on parlait de psychobiotiques. On peut se fier à ces psychobiotiques ?
Alors, on parle de psychobiotiques quand effectivement une étude a montré, la plupart du temps sur les animaux pour l'instant, qu'une souche particulière a un effet majeur sur le comportement animal et dans des modèles effectivement de pathologie. Donc le terme lui-même est un petit peu nouveau, on pourrait dire attrayant, pourquoi pas. Je pense que le point important, Guillaume Font l'évoquait, c'est de penser éventuellement probiotiques dans un contexte où par ailleurs on a finalement un mode de vie, des choix de vie et des pratiques qui sont appropriés en termes d'alimentation et d'activité physique. Et puis au-delà, il faut bien voir qu'il y a un effet souche en fait. Hein. Donc la souche elle-même est importante pour le probiotique. Et il y a un facteur individuel. Certains individus ont un microbiote qui est assez peu permissif vis-à-vis des probiotiques ou des psychobiotiques.
Donc on ne leur dira jamais assez, on pourrait terminer quasiment toutes nos émissions du lundi par ça. Manger équilibré, faites du sport, c'est la meilleure solution pour être en bonne santé physique et psychologique. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Guillaume Font, merci Joël Doré d'être venu nous parler de ces liens entre le microbiote et la dépression. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Céline Lozen et Léonore Pérez. C'est Jacques Hubert aujourd'hui à la technique. Dans le prochain épisode de La Méthode Scientifique, demain nous fêterons les 150 ans d'un fameux tableau, celui de Mendeleïev, et nous nous demanderons comment les physiciens essayent de le faire craquer en y ajoutant notamment de nouveaux éléments super lourds. Voilà, on en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.